France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette 22e émission de Mazette. Quelle musique ! Aujourd'hui, 5 décembre 2021, le thème de notre promenade musicale dominicale est la dernière année. Chacune et chacun, nous vivons des dernières années avant l'entrée au collège, avant la majorité, avant la quarantaine, avant une nouvelle décennie, avant la retraite, etc. Souvent d'ailleurs, ce n'est qu'à posteriori que nous jetons un regard rétrospectif sur ce qui est devenu une dernière année, les 12 mois précédant tel ou tel événement, joyeux ou non, imprévisible ou inéluctable, mais incertain quant à sa date d'occurrence. Ainsi, du 6 décembre 1790 au 5 décembre 1791, Mozart a vécu sa dernière année. Et nous allons le suivre pas à pas, en musique bien sûr, de la musique toute composée pendant cette dernière année. Ce 6 décembre 1790 était la première Saint-Nicolas depuis la mort du prince Nicolas Ier Esterhazy fin septembre. Nicolas le Magnifique, grand homme de guerre, mais aussi d'art et de culture, il s'était attaché depuis 3 décennies à la collaboration de Joseph Haydn, son fils et son successeur Anton, peu amateur de musique, licencia l'essentiel du fameux orchestre du palais d'Esterhazy et libéra Haydn de toute obligation tout en maintenant son salaire. Haydn s'installe à Vienne, y retrouve Mozart, leur grande amitié, leur complicité musicale. Mais en décembre, Haydn, très courtisé de toutes parts, se laisse convaincre par Johann Peter Salomon, organisateur de concerts très entreprenant, de se rendre à Londres, où il est très attendu. La presse parle de l'admirable et sublime Haydn, Shakespeare de la musique, etc. Le 15 décembre, Haydn quitte Vienne, passe par Bonn, où il rencontre pour la première fois le jeune Ludwig van Beethoven, puis Calais, il découvre la mer et parvient à Londres, qu'il ne quittera que le 1er juillet 1792 pour revenir à Vienne, près de 8 mois après la mort de Mozart. « J'ai été longtemps hors de moi à la nouvelle de la mort de Mozart, et je ne pouvais croire que la Providence ait si vite rappelé dans l'autre monde un homme aussi irremplaçable. » La postérité ne reverra pas un tel talent d'ici 100 ans. À Vienne, outre les nouvelles confuses qui arrivaient de Paris, 1790 avait été marqué par la mort en février de l'empereur Joseph II, despote éclairé, réformateur, féru de musique, passionné d'opéra, commanditaire depuis l'enlèvement au sérail jusqu'à Cosi de plusieurs chefs-d'œuvre de Mozart. Mozart bénéficiait de ses largesses et de sa protection, par exemple pour la création des Noces de Figaro. Joseph II en fut le mécène et avait autorisé le livret alors qu'il avait interdit la pièce sulfureuse de Beaumarchais. Joseph II succède son frère Léopold II, de tempérament très conservateur et nettement moins séduit par la musique et la personnalité de Mozart. Pour Mozart, l'année 1790 a commencé par la création de Così fan tutte, le troisième et dernier opéra composé sur un livret du poète impérial l'abbé da Ponte. Mais jusqu'à la fin de l'automne 1790, c'est une période très peu productive, comme l'avait été 1788 et jusqu'à l'été 1789. Au milieu de nombreux fragments, seules deux œuvres significatives, les 22e et 23e quatuors, avaient été achevées. Cependant, en décembre 1790, semble s'ouvrir une nouvelle période créatrice et 1791 s'annonce sous de très bons auspices. Mozart s'est lancé avec ardeur dans la composition de deux grands quintettes pour cordes. Il va bientôt terminer un nouveau concerto pour piano. Ses opéras Don Giovanni et les Noces de Figaro rencontrent un succès toujours croissant dans tout le territoire de la Germanie. Salomon lui a fait promettre de rejoindre Haydn à Londres pour la saison 1792. Et avec sa femme Constance et leur fils Karl Thomas, 6 ans, seul survivant des 5 enfants nés depuis 1782, Mozart aménage dans un vaste appartement lumineux dans le centre de Vienne, près de la cathédrale, avec une pièce pour le billard et une autre réservée à la musique et à la composition. C'est dans ce salon de musique de ce bel appartement que le 5 janvier 1791, Mozart achève le concerto pour piano en si bémol majeur. Il sera créé le 4 mars au cours d'une académie, un concert dans la salle attenante au Palais d'hiver du Prince Eugène, à 100 mètres à peine de l'appartement de Mozart. Ultime concerto pour piano, sans trompette et timbales contrairement au grand concerto précédent, c'est une œuvre toute de simplicité apparente, presque intime. Le larghetto au deuxième mouvement reprend le second thème du premier mouvement, le piano chante à la dominante en mi bémol majeur, une romance pleine de charme et assez retenue. Et nous allons l'entendre, la fin de ce larghetto, la dernière minute, soudain assombrie comme peut l'être un paysage lumineux au passage d'un nuage, avec des contre-chants empreints d'une nostalgie sans apitoiement, souriante, est une musique tout simplement sublime. Mozart espéra devenir le maître de chapelle de l'empereur, en vain, mais Joseph II, en 1787, l'avait nommé musicien de la chambre impériale et royale en charge de la musique de danse, avec un confortable traitement, 800 florins par an. Il s'agissait de composer des danses, les danses à la mode, danses allemandes, menuet, Ländler, c'est-à-dire l'ancêtre de la valse, et contredanse à la française. En particulier pour les bals qui avaient lieu à Vienne, à la redoute de la Hofburg, entre la fête de l'Épiphanie le 6 janvier, et le dernier jour du carnaval, veille du carême, le 8 mars en 1791. Les quelques 40 danses que Mozart écrivit cette année-là, en décembre, janvier et février, eurent beaucoup de succès et elles furent livrées séance tenante à l'éditeur Artaria pour publication. Nous avons entendu tout à l'heure la contredanse sur les thèmes de l'air de Figaro à la fin du premier acte des noces, Non piandrai farfallon amoroso. En voici une autre, extraite du même recueil de février 1791. Attention aux fourmis dans les jambes. Au cours des semaines suivantes et jusqu'au mois de mai, Mozart va écrire pour satisfaire des commandes plusieurs petites œuvres pour des petits orgues mécaniques d'automates. « Travail que je déteste beaucoup », écrit-il dans une lettre. Également des pièces pour harmonica de verre commandées par Marianne Kirchgesner, virtuose aveugle de cet instrument rare. Et parmi ces pièces, l'adagio en ut majeur que nous écoutions en tout début d'émission dans une transcription pour deux pianos. Avril 1791 est un mois d'une grande activité de composition et de concert. Le 12 avril, Mozart met un point final au magnifique et trop rarement joué quintette pour cordes, deux violons, deux altos, un violoncelle, sixième quintette de cette formation et la dernière grande œuvre de musique de chambre. Elle est créée immédiatement le 14 avril lors d'une soirée chez le commanditeur de l'œuvre, Johann Tost, homme d'affaires qui avait été aussi le second violon soliste de l'orchestre de Haydn à Esterházy. Œuvre brillantissime, à la fois très dense dans son écriture à cinq voix et d'une transparence cristalline miraculeuse pour l'auditeur. Nous écoutons le troisième mouvement, trois parties, menuet, trio, reprise du menuet, un allegretto en mi bémol majeur, trois bémols à la clé, trois fois trois, cela sent son œuvre de fraternité maçonnique.
Thank you.
toujours en avril, au milieu des soucis pécuniaires dont témoignent de nombreuses lettres, les deux concerts de charité du Carême pour les veuves et orphelins des musiciens, pas de veuves semble-t-il, le samedi et le dimanche de Rameau, voient la création d'une symphonie de Mozart, une des trois dernières composées à l'été 1789 et apparemment pas encore jouée. Laquelle ? Les débats entre musicologues ont fait rage. De bons arguments musicologiques pèsent en faveur de la célèbre symphonie en sol mineur, mais profitons de l'incertitude qui demeure et écoutons le final non de cette 40e symphonie, ni celui triomphal et souverain de la 41e, dite Jupiter, mais celui de la 39e symphonie, apothéose enjouée, spirituelle, dansante, d'une symphonie magistrale et somptueuse que Mazette, on a le droit de préférer certains jours. En 1791, Pâques était très tard, le 24 avril, et c'est le mardi de l'octave de Pâques, le 26 donc, qu'eut lieu à Prague, au Théâtre Royal National, une académie musicale organisée par les époux Dušek, l'un et l'autre très amis de Mozart et de Constance, lui pianiste, très honorable compositeur, elle remarquable soprano, également Hercule Poirot en jupon enquêtant sur un crime commis à la cour de Versailles dans le jeu vidéo Marie-Antoinette et les disciples de Loki, que vous connaissez peut-être et qui vaut ce qui vaut. Les Hercule Poirot de la musicologie, examinant notamment les filigranes, l'origine du papier des partitions manuscrites, considèrent qu'il est très hautement vraisemblable qu'au cours de cette académie a été entendu pour la première fois un rondeau avec corde bassée ou clarinette obligée qui, à l'été, sera intégré dans un des airs de Vitellia au second acte de la Clémence de Titus, opéra dont Mozart ne recevra la commande qu'après la mi-juillet. Nous écoutons ce rondeau tel quel dans sa version pragoise d'avril, c'est-à-dire par rapport à ce que l'on entend dans la Clémence de Titus, sans la première partie et sans les mesures de transition vers le beau fa majeur du chœur suivant. Un des plus beaux airs de Mozart avec un corde bassée ou une clarinette très volubile. En mai commence la composition de la flûte enchantée, nous y reviendrons. Fin mai, Constance, au 7e mois d'une 6e grossesse, part pour un mois de cure à Baden, au bord de la Vienne, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Vienne. Et les lettres au moins quotidiennes que lui envoie Mozart témoignent d'une affection, d'une gaieté, d'un humour, d'un entrain, d'une santé extraordinaire, malgré un travail harassant. Mais d'autres lettres montrent en parallèle qu'outre son inquiétude pour la santé de Constance, la situation financière le préoccupe au plus haut point. Il rejoint Constance à Baden du 8 au 10 juin et c'est là qu'il compose pour la fête du Corpus Christi, la fête Dieu, une de ses œuvres les plus connues et admirées, simple, pas d'ornement, une seule modulation de ré majeur à fa majeur et une beauté lumineuse et émouvante, c'est l'Ave Verum Corpus. Salut vrai corps né de la Vierge Marie qui a vraiment souffert, immolé sur la croix, soit notre viatique à l'heure de la mort. Elle est créée dans l'église paroissiale de Baden le 23 juin, le jour de Corpus Christi. Juillet commence difficilement. Mozart se sent soudain épuisé, anxieux, découragé, des accès de mélancolie, surmenage. Les copistes de la flûte enchantée ont du mal à suivre le rythme forcené du compositeur. Solitude, inquiétude pour Constance encore à Baden. Les lettres révèlent un Mozart soudain déprimé. Comme il l'écrit, « C'est un certain vide qui me fait bien mal, une certaine langueur qui ne s'apaise jamais, qui perdure et croît même de jour en jour, une émotion en permanence à fleur de peau. » Mais Constance revient, et le 26 juillet, c'est la naissance de Franz Xaver Wolfgang, qui deviendra un pianiste et compositeur estimé, certes dans l'ombre épaisse de son génial géniteur. Et puis l'énergie revient, et il le faut absolument. Peu après la mi-juillet arrive la commande de la Clémence de Titus pour début septembre, à l'occasion des festivités à Prague du couronnement comme roi de Bohême de Léopold II. Il était déjà archiduc d'Autriche, déjà couronné en 1790 empereur du Saint-Empire romain germanique à Francfort, et roi apostolique catholique de Hongrie à Pressburg, c'est-à-dire à Bratislava. Pour la clémence de Titus, les divinités supérieures ont joué finement avec l'aide de Salomon. La composition de l'opéra devait en effet revenir à Joseph Weigel, dauphin de Salieri, et Weigel était très apprécié, mais l'empereur le sollicita trop tard. Haydn étant retenu plus longtemps que prévu en Angleterre, le prince Asteradi avait déjà recruté Weigel avec force monnaie trébuchante, donc plus disponible. L'empereur voulait éviter Salieri, Léopold II songe à son compositeur préféré, Cimarosa, mais il est retenu en Russie. On demande à Salieri, celui-ci refuse, il ne lui reste plus que 6 semaines pour tout monter, il est déjà très occupé à écrire la musique civile et religieuse des cérémonies du couronnement. On propose alors à Mozart qui accepte. Ouf! Trio Vitellia Publio Agno au premier acte de la Clémence, musique survoltée, très sensuelle aussi, absolument géniale. Créé triomphalement à Prague le 6 septembre, malgré l'avis de l'impératrice Marie-Louise, una porqueria tedesca, inutile de traduire je pense, la Clémence de Titus va passer 180 ans dans une obscurité presque totale, jusqu'à l'enregistrement que nous écoutons aujourd'hui, celui d'Ivan Kertész à Vienne en 1967, et la mise en scène de Jean-Pierre Ponnel au Covent Garden à Londres en 1969. Et de nos jours encore, cet opéra fait figure d'œuvre de second rang, derrière la trilogie d'Aponte, les noces de Figaro, Don Giovanni et Così fan tutte, derrière la flûte enchantée et même l'enlèvement au sérail. Et pourtant, c'est une musique souvent sublime, pas uniquement les 5 ou 6 pages les plus fameuses. Je ne suis pas loin de penser que Philippe Solers a raison lorsqu'il dit qu'on y entend le meilleur Mozart à son apogée, après le rondo avec clarinette obligée de tout à l'heure, puis ce trio que nous venons d'entendre, écoutons l'air d'agneau au second acte, toujours dans le même enregistrement d'Ivan Kertész, avec la splendeur du timbre et l'art de la très jeune Brigitte Fassbender. Thank you. À Prague, la clémence avait été précédée le 2 septembre de Don Giovanni, déclenchant à nouveau l'enthousiasme de la cour et des Pragois. De retour à Vienne, mi-septembre, Mozart doit se consacrer de toute urgence à achever plusieurs œuvres très attendues par leurs commanditaires. Tout d'abord, la flûte enchantée. Sa composition, interrompue pour écrire la clémence, ne sera achevée qu'à l'avant-veille de la première, dirigée par Mozart lui-même, avec un succès extraordinaire qui ne s'éteindra pas. Première le 30 septembre, jour de la dernière représentation frénétiquement applaudie de la clémence à Prague. Emmanuel Schikaneder, ami de Mozart depuis leur rencontre à Salzbourg en 1780, est directeur du théâtre Auf der Wieden, théâtre lyrique, dont la jauge hors pandémie peut atteindre 800 personnes, ce qui n'est pas rien, et auquel est attaché un petit orchestre de 35 à 40 musiciens, ce qui est assez conséquent pour l'époque. Le théâtre est situé hors les murs, au sud, juste au-delà du glacis, dans la boucle de la Vienne, à un quart d'heure à pied de l'appartement des Mozart. Acteur, chanteur, poète, dramaturge, Schikaneder écrit le livret de la flûte, peut-être avec Mozart, qui lui se charge d'écrire la musique de ce qui va être un Singspiel, un opéra comique allemand alternant dialogue parlé et chant, avec tout ce qu'il faut de virtuosité vocale, d'effets spéciaux, de magie, à la fois très sophistiquée et très populaire, intelligible par tout un chacun. Nul besoin de présenter la flûte, première opéra maçonnique d'évidence, mais que l'on aurait tort, je pense, de ramener à cela exclusivement, en oubliant l'humour, l'ironie joyeuse, la satire malicieuse qui le caractérise aussi, y compris dans la description des rituels maçonniques. Nous écoutons un large extrait du final du premier acte à partir du second duo de Pamina et de Papageno, avec un flux ininterrompu de musique, Durchkomponiert, comme on dit en allemand. Surgit alors en musique la personnalité magnifique de Pamina, avec une vivacité, un courage, un optimisme, une droiture, un féminisme naturel qui laisse pantois.
Schnelle Füße, rasche Wut, schützt vor Feind des Lebens Unmut. Wenden wir Tamino doch zu, erwischen, sonst erwischen sie uns noch. Wenden wir Tamino doch zu, erwischen, sonst erwischen sie uns noch.
Leute,
stille, 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 ich kann's besser. Welche Freude ist wohl größer? Freut an mir, du hört uns schon, wer kann mich helfen tun? Nur welch ein Glück, wenn ich ihn finde, nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde. Welch ein Glück, wenn ich ihn finde, nur geschwinde, 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 nur geschwinde.
Wer viel wagt, wer viel wagt, gewinnt oft viel. Komm, du schönes Glockenspiel, lass die Glöckchen klingen, klingen, lass die Ohren ihnen singen.
Beste Harmonie. Gib dem Ehrenmann sogleich
deine Gnade, macht
mich reich. 77 Sohlen streich. Ach Herr, ach Herr, den Lohn verhofft ich nicht. Ich dank, es ist ja meine Pflicht.
Des Lebens all das Lohn, der göttliche Weise.
Beiden Fremdlinge in unserm Prüfungstempel ein. Bedecket ihre Häupter dann, sie müssen erst bereinigt sein.
Constance repart aux eaux de Baden début octobre, ce qui nous vaut une merveilleuse série de lettres dans lesquelles Mozart raconte tout à son excellente petite femme. Par exemple, les bravos répétés de Salieri et de sa maîtresse, la cantatrice Caterina Cavalieri, à la flûte, ou les pitreries de Wolfgang lui-même, un soir où il joue le Glockenspiel, jeu de clochette, en coulisses. Il le joue à contre-temps, quand sur scène, Papageno alias Schikaneder marque une pause et il recommence. Alors sur scène, Schikaneder frappa son faux Glockenspiel, écrit Mozart, et il dit « Ferme-la ! » Tout le monde se mit à rire, je crois que nombreux sont ceux qui ont découvert par cette plaisanterie que ce n'était pas lui qui jouait l'instrument. Cette correspondance passionnée jusqu'à l'ultime lettre du 14 octobre, avant veille du retour de Constance à Vienne, stupéfie par la verve, l'entrain, l'appétit de tout, l'exubérance et une joie de vivre très éloignée des journées déprimantes de début juillet. On apprend dans la lettre du 7 octobre qu'après la flûte et avant de se mettre à la composition du Requiem, Mozart achève enfin le concerto pour clarinette que son commanditaire, le grand virtuose Stadler, qui était aussi son ami et frère maçon, va créer à Prague le 16 octobre. Le deuxième mouvement, célébrissime, est de fait un aria da capo pour clarinette, mené effectivement par la clarinette dès la première note, avec une très grande variété de registres couvrant tout l'ambitus de l'instrument, magnifique cadence à la fin de la seconde partie et ensorcelante coda à la fin du da capo, la reprise de la première partie. Nous écoutons ce da capo. Romain Guyot et Anton Stadler, superlatif, et dirige aussi l'Orchestre de Chambre d'Europe. sur le coup de 3 heures. L'heure des badineries. Le thème d'aujourd'hui, eine kleine Auld Lang Syn, nicht Musik. Est-ce que cela signifie quelque chose? Pas certain. Auld Lang Syn, chanson contemporaine de la fin de la vie de Mozart, 1788 exactement. Chanson que vous connaissez bien, sans savoir peut-être que vous la connaissez bien. Dans le monde anglo-saxon, cette chanson écossaise très populaire, notamment pour la Saint-Sylvestre, a été adoptée par toutes les obédiences chrétiennes et les congrégations maçonniques, et inversement. Son surnom est le chant que personne ne connaît, sans doute à cause de son titre en dialecte Scots-Lalans, Auld Lang Syn, quelque chose comme « il y a vraiment longtemps ». Bien connu et reconnu, évidemment, ce n'est qu'un au revoir. La musique que l'on entend dans les obsèques ou au Japon dans les grands magasins à l'heure de la fermeture. Chant de la séparation, du deuil, de l'espérance de retrouvailles dans l'au-delà ou l'année prochaine, ou demain, chant de l'unité par conséquent. Deux badineries à présent, très badines, très mozartiennes. La première de Frank Waxman, compositeur allemand émigré à Hollywood, auteur de belles œuvres estampillées classiques mais aussi de brillantes musiques de films. Pour la Saint-Sylvestre 1947, chez le grand Yashai Fetz, il compose des variations sur Auld Lang Syn. Immédiatement joué par Eifetz au violon, Primrose à l'alto, Piatigorsky au violoncelle et Waxman lui-même au piano, très chic. Avant un hommage à Beethoven, puis à Bach, puis à Shostakovich, sic. La première variation, on revisite la petite musique de nuit. Eine kleine Nachtmusik devient eine kleine Nichtmusik, petite musique de rien. Quelques années après, l'excellent violoniste anglais Edward Bor, pilier du festival de Bath, aux côtés de Yehudi Menuhin, commet sous le nom de Professor Teddy Bor une autre version revisitée de la petite musique de nuit, intitulée en austro-écossais « Mac Mozart, eine kleine Bricht Moonlight, nicht Musik », ce que nous ne traduirons pas. Assez réjouissant et superbement interprété par Gidon Kremer et sa Kremerata Baltica.
Quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Revenons en 1791. À peine achevé le concerto pour clarinette, Mozart se met enfin à la composition du Requiem qui lui a été commandé en juillet. Cette commande a été l'objet de beaucoup de légendes et même d'élucubrations. Les faits sont pourtant suffisamment romanesques en eux-mêmes. Le comte Franz von Walsegg, musicien amateur, avait pris l'habitude de commander dans le plus grand secret à des compositeurs professionnels de la musique de chambre dont il s'attribuait la paternité, ce que tout le monde savait à Vienne en fait. En février 1791, sa jeune épouse meurt et il décide de faire composer une messe de Requiem qui sera jouée à chaque anniversaire du décès. Cette messe est commandée par son chargé d'affaires à Mozart et la commande de ce Requiem doit rester secrète pour que le comte puisse se l'attribuer. La Clémence, la flûte enchantée, le concerto pour clarinette retardent la composition, mais en octobre, le chargé d'affaires donne sans difficulté un délai supplémentaire. Le travail est à nouveau interrompu par l'écriture de la cantate « Laut verkünde unsere Freude » annoncée à haute voix notre joie, créée le 18 novembre sous la direction de Mozart lors de l'inauguration du nouveau temple de sa loge maçonnique à l'Espérance couronnée. Dernière œuvre achevée de Mozart, dernière apparition publique aussi, musique solennelle mais avant tout joyeuse dont une adaptation deviendra l'hymne de la République d'Autriche. Nous écoutons le chœur d'entrée qui est aussi le chœur final. Deux jours après, le 20 novembre, Mozart est soudainement obligé de s'aliter, bientôt quasiment incapable de poursuivre son travail. Il ne se relèvera plus. De quoi Mozart est-il mort et pourquoi les choses se sont-elles ainsi précipitées? Beaucoup d'experts, de multiples ouvrages. Selon le professeur Lucien Carozen, plus de 120 causes de décès et 85 additionnelles ont été avancées par les uns et les autres à partir de témoignages dont la fiabilité est questionnable. Il semble que l'on peut dire que jusqu'au 20 novembre, Mozart était dans sa bonne forme la plus coutumière, que son décès 15 jours plus tard est dû à une affection aiguë, peut-être contractée lors de la cérémonie du 18 novembre en période d'épidémie à Vienne, état de santé aggravé par des facteurs multiples, surmenage, infection, automédication et traitements médicaux agressifs et ou inefficaces, conditions d'hygiène de l'époque aussi, s'y ajoute une météorologie catastrophique à Vienne de mi-octobre à mi-novembre, et surtout l'impact de psychologie forcément dramatique de l'arrêt du tribunal de Basse-Autriche du 9 novembre. Cet arrêt, redécouvert en 1991, condamnait Mozart, déjà impécunieux, à rembourser au prince Lichnowsky l'équivalent de presque deux fois ses émoluments annuels, faute de quoi ses biens et la moitié de la pension impériale seraient saisis. Cette décision ruinait de fait Mozart et traduisait en outre la défiance croissante de l'aristocratie à son égard, accrue sans doute par l'aversion du nouvel empereur à l'égard des francs-maçons, y compris les bons catholiques francs-maçons comme semblent l'avoir été et Mozart et Haydn. Le 4 décembre, Mozart travaille peut-être une dernière fois avec Süssmayr sur le Requiem et le 5 décembre, 5 minutes avant 1h du matin, il rend son dernier souffle. La légende a fleuri à propos de ses obsèques et de son enterrement, qui se déroule le 6 décembre, tout simplement, semble-t-il, selon les usages et les règles en vigueur à Vienne pour un membre de la moyenne bourgeoisie que les autorités ne souhaitent pas particulièrement honorer, ce qui était le cas de Mozart. Le 10 décembre, une messe des morts fut célébrée à Saint-Michel, au cours de laquelle fut sans doute chantée et donc créée l'introïde du Requiem, seule pièce parfaitement achevée. La correspondance de 15h21. Prenons la correspondance de 15h21, correspondance alimentaire qui nous conduit aujourd'hui à Salzbourg. Dans les lettres d'octobre 1791, les dernières qu'il envoie à son épouse Constance, Mozart ne dissimule rien de ses passions alimentaires. Trois extraits. « Je viens d'ingurgiter un délicieux morceau d'esturgeon et j'ai envoyé Joseph Primus, le sobriquet de son domestique, m'en chercher encore un peu. Don Primus est revenu avec des côtelettes de porc. Que gusto ! J'ai bien dormi et savouré un excellent demi-chapon avant d'aller à la messe. Mozart aime aussi le bon vin, la bière, le punch, le café. J'ai demandé à Primus de me chercher du café que j'ai bu en fumant une merveilleuse pipe. Il raffole également de tout ce qui est sucré, lait d'amande, limonade, glace, sorbet et confiserie de toutes sortes. S'emparant, et avec quel talent, d'un lied composé par le plus grand et le plus génial des Salzbourgeois, la pétillante Imgard Zefried nous fait la leçon. Les hommes cherchent toujours à grignoter, si on les laisse seuls, ils trouveront facilement une jeune fille à attraper, on sait comment les surprendre. Doit-il y avoir une surprise? Les jeunes filles ont le sang vif et les friandises ont si bon goût. Mais la friandise avant le repas coupe l'appétit. Beaucoup qui l'oublient, outre le trésor qu'elles possèdent, perdent leur bien-aimé avec. Père, que cela soit un avertissement pour vous, enfermez vos sucreries, enfermez vos jeunes filles.
Soll das Ufer munter sein, Mädchen haben frisches Blut und das Naschen schmeckt so gut.
Friandise, le Mozart bonbon ou Mozart Kugel, en français balle ou boule de Mozart. Le maître confiseur Paul Fürst s'installe à Salzbourg en 1884, à deux pas de la cathédrale et de la place de la résidence au cœur de la ville. Il met au point un procédé original, une boule de massepain d'amandes et de pistaches recouverte d'une couche de praliné, piquée sur un bâtonnet en bois, puis trempée dans du chocolat noir et placée verticalement boule en haut pour refroidir et durcir. On ôte la pique de bois, on rebouche le trou avec du chocolat et on enveloppe la boule dans une feuille d'étain bleu argent à l'effigie du divin Wolfgang Amadeus. Ce procédé entièrement manuel permet de produire une boule parfaite, sans zone plate, et il n'a pas changé chez Fürst depuis 1890. C'est le Mozart Kugel original, primé dans tous les concours et foires imaginables, et vendu exclusivement dans les boutiques de Salzbourg et par correspondance. 1,5 million de Mozart Kugel original vendus et sans doute mangés chaque année.
Thank you.
Le sublime trio des quilles. Voilà de l'à-propos pour parler des boules Mozart. Le succès du Mozartkugel suscite l'imitation, la concurrence, les différends, nourrit les avocats, de très nombreuses décisions de justice, quelques accords entre concurrents pour cartéliser peu à peu gentiment le marché. L'enjeu n'est pas tant la recette et le goût que la forme. Pas de boule parfaite si elle est industrielle, elle doit avoir un aplat. Et surtout le nom. Et il existe ainsi une foultitude de produits et d'appellations utilisant des adjectifs original, vrai, authentique pour désorienter l'amateur. Les Mozartkugel génèrent des passions jusque dans de regrettables débordements. En 2006, on pouvait lire à la une des Salzburger Nachrichten qu'un des Mozartkugel géants en polystyrène revisité par d'éminents plasticiens et installé dans le centre de Salzbourg avait été vandalisé. Quelle époque, Mazette! Je l'avoue, je n'ai jamais goûté de Mozartkugel et à cette heure, je ne sens monter en moi aucune tentation irrésistible. En revanche, qu'attendons-nous pour faire une promotion savoureuse et même délicieuse de nos musiciens français? Comme le préconisaient à l'instant Mozart et Irmgard Seyfried, pas de sucrerie. Au pays de France, avec ses centaines de fromages, prenons des initiatives et soyons innovants. Pouvons-nous ainsi suggérer une idée aux vaches dont le lait récolté sur les monts du Haut-Forêt ou Forez, entre Loire et Dore, sert à élaborer la délicieuse fourme de Montbrison, avec sa belle croûte orangée, sèche et finement rugueuse, qui dissimule une pâte jaune, souple, ardente et douce, discrètement persillée en bleu et avec un inimitable parfum de gentiane, une pâte qui carillonne au palais, fruit d'un savoir-faire qui remonte vraisemblablement à l'époque légendaire qui inspira dans ces lieux mêmes le fabuleux roman de l'Astrée à Honoré d'Urfé. Créez, développez, promouvez, protégez, vendez à travers le monde la boule boulaise à base de la sublime fourme de Montbrison, Montbrison où le 26 mars 1925 naquit le petit Pierre-Louis-Joseph Boulez qui allait devenir un des génies de la musique.
France Musique, Mazette, quelle musique? Jean-Yves Larouturou.
L'émission se termine, sans être un adieu à Mozart, bien sûr. Sur la page Mazette, quelle musique du site de France Musique, vous trouverez toute la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédée. La fine équipe avec moi aujourd'hui est rassemblée Nelly Portal et Laure Poissonnier pour le site, Philippe Mercher à la technique et last but not least, Laurent Lefrançois à la réalisation. Merci aussi à l'excellente Geneviève Geffray qui a traduit en français et édité la correspondance de Mozart, très précieuse pour préparer cette émission. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, mais pas même lieu. Nous partirons pour la Crète et pour Naxos pour y retrouver Ariane. Excellente semaine sur France Musique et dans moins d'une minute, Félicien Bru sera avec nous pour Brut d'accordéon.
À réécouter sur francemusique.fr.